Donc l'idée de départ, c'était, donc là, comment on va faire, quand on organise la matinée? Donc là, je vais vraiment projeter une quinzaine de diapos, pas plus. C'est juste pour s'entendre un peu, qu'est-ce que c'est, des normes, des labels, ça pose toujours débat. Qu'est-ce que c'est une certification? Les organismes qui sont chargés d'évaluer, de certifier, d'accréditer pour. Et après, on va essayer de travailler en groupe pour savoir un petit peu comment on va avancer un petit peu dans ces labels, dans la jungle de labels. Comment on va. Bon, c'est une idée que j'ai eue, je vais vous le soumettre. On va essayer de travailler en groupe, détecter des labels, les labels des normes qu'on rencontre tous les jours. On va faire un retour d'expérience, un feedback. Après, on va recommencer avec peut-être quelque chose de plus. Et après, on va faire vraiment des conclusions générales un petit peu sur la manière et comment on va vraiment améliorer les choses. Voilà. Donc, c'est l'idée de départ. C'était, on travaille dans un projet européen qui s'appelle EGS. Éducation, énergie, éducation, gouvernance et établissement scolaire. Donc, il y a à peu près 23 partenaires et il y a de 10 pays différents. Donc, les pays sont ici. Hein, ça va de l'Autriche, la Bulgarie, la Finlande, l'Allemagne, l'Italie, la Roumanie, les Pays-Bas, la France. Et là, ici, au départ, donc nous, à l'UFM, on était chargés d'organiser un plan de formation. Pour les enseignants des établissements scolaires dans ce pays-là et en même temps pour les personnels. Parce que bon, c'était vraiment, le nouveau, c'était vraiment organiser des formations pour les personnels et pour les enseignants. Donc, on a fait vraiment on a établi un questionnaire, surtout sur là, vous voyez ici, sur la degré de compétence à gauche. Et après, on a choisi des thématiques. Hein, ça va du développement durable, éducation de développement durable, et ainsi de suite. Et les collègues répondent un petit peu par rapport à ce questionnaire, leur degré de compétences qui sont ici. Donc là, on voit bien que sur toutes les compétences, bon, ça varie hein, d'un pays à l'autre, mais on a constaté, est-ce que ça va marcher? Voilà, on a constaté que tout ce qui est normes, label européen, normes, labellisation standard, on voit bien qu'il y a quand même une chute en manière de compétences. Donc on voit bien, et ça, ce n'est pas vraiment relatif à un pays. Hein, donc c'est vraiment, c'est dans tous les pays européens qui sont engagés et les partenaires qui ont répondu à la question. D'autant plus que ici en France, on a fait. Je vois pas, on voit pas bien. Il faudra que je remette ça là. Bon, en France, nous, on a fait le questionnaire pour les personnels et pour les enseignants. Hein, dans un lycée, ce qu'on appelle lycée Louvier, lycée les Fontenelles de Louvier, hein, dans l'heure. Et on a constaté que, par exemple, là, pour la France, là, ici, vous voyez ici, ça, c'est le résultat pour les enseignants, et là à côté, juste c'était pour le personnel. On voit bien, même il y a un degré de compétences qui sont vraiment un petit peu supérieurs par rapport aux compétences des enseignants, hein, ce qui sort de ce questionnaire-là. Voilà. Donc, ce sont les thématiques. Nous, au niveau de l'UFM, au départ, tout ça c'était sur les normes et les labels dans le domaine de l'énergie. Au départ, c'était ça, hein, parce que le programme, c'était énergie et éducation. Donc, on a cherché à l'UFM, on a dit, bon, bah, qu'est-ce qui va mener un petit peu la formation, hein, parce que, bah, on s'est regardé, bon, on n'a pas trouvé un collègue qui est déjà prêt à le faire. Donc, je me suis dit, bon, en énergie, je peux quand même faire un effort pour feuilleter un petit peu. Regarder un peu ce que c'est des labels, des normes en matière d'énergie. Et à fur et à mesure que je regarde tout ce qui est normes, labels, je me suis trouvé avec ça n'a pas marché. Voilà, je me suis trouvé déjà, je pars sur une consommation, ce qu'on appelle responsable, parce que là, je ne peux pas me limiter au niveau de tout ce qui est énergétique. Je me suis trouvé déjà à regarder un petit peu tous les labels, tous les produits que je trouve, bon, que ce soit à la maison, que ce soit... c'était vraiment un entraînement. Donc là, c'est là qu'on est arrivé. Je dis, bon, là, on est arrivé à... C'est vrai, des normes certification label. Et là c'est, on aboutira à une consommation, entre guillemets, responsable. Voilà un petit peu les... Bon, ça, je le laisserai. Voilà, donc là, ce que... Bon, on va vraiment faire une introduction un petit peu sur tout ce qui est définition. Le cadre institutionnel, tout ce qui est normes et labels. Après, on va regarder un petit peu ensemble, bon... Comment on appelle ça dans les jungles de label, pour voir un petit peu comment on peut... est-ce qu'on se trouve, nous, consommateurs, on voit ça tous les jours, hein, donc comment on va se trouver, est-ce qu'on se trouve, est-ce qu'on connaît un petit peu les cahiers des charges, hein, les référentiels de chaque label, de chaque norme, comment on peut s'en sortir. Donc, l'introduction... Donc là, dans l'introduction, donc les normes, les certifications de labels sont vraiment des outils de marketing. Hein, donc vraiment, c'est des outils de marketing, que ce soit pour un produit ou pour un service. Donc en général, ces normes, en principe, c'est vraiment pour rassurer le consommateur de la conformité d'un produit. Donc, et apporter la preuve d'une qualité, de performance. Ça, c'est un peu la partie théorique de tout ce qui est vraiment... Les normes et les labels. Alors, les normes, les certifications et les labels, quand vous avez vu, quand on introduit un petit peu l'historique du développement durable, donc il y a deux choses quand on introduit ça, c'est-à-dire il y a l'évolution des concepts et l'évolution des acteurs. Donc, l'évolution des concepts, c'était vraiment dans les années 90, c'est-à-dire avec l'introduction de la notion de développement durable. Mais en même temps, après tout ce qui est éco-développement, tout ce qui est vraiment management environnemental avec les ISO 9001, les ISO 14001, c'est vraiment l'évolution vraiment des concepts. Après, c'était vraiment regarder un petit peu l'évolution des acteurs. Alors, l'évolution des acteurs, dès le départ, ce sont vraiment, on sait bien que ce sont les ONG qui prenaient un peu un part important dans cette action-là. Puis, c'était les entreprises, hein, pour se différencier, hein, pour la production de services ou de produits. Et c'était toujours dans les 90, mais dans les années 2000, c'est surtout l'évolution de consommateurs. Le consommateur, maintenant, il joue un rôle important dans ces concepts, hein, dans tout ce qui est normes, labels et certifications. Bon, les objectifs... Voilà. Les objectifs un peu de ce qu'on va faire une heure et demie, c'était surtout pour dire que toute activité a des impacts sur l'environnement. Il n'y a pas d'activité avec un impact zéro. Zéro impact sur l'environnement, il n'y a pas du tout de ce qu'on appelle une implication. Donc ce qu'il faut vraiment choisir plus ou moins par nos choix, hein, nos comportements ou nos applications, choisir des produits qui ont un impact moindre. Voilà un petit peu l'idée. Donc, l'objectif, c'était vraiment, moi, au départ, j'ai dit comment acheter, consommer des produits. Je pense que ce qu'on va faire aujourd'hui, ou cette matinée-là, une heure et demie, c'était vraiment une contribution visant un. Voilà. Donc, ce n'est vraiment pas... C'est ça, à savoir comment on peut vraiment déterminer ce qu'on appelle des produits avec certains ce qu'on appelle les éco-produits, et comment vraiment repérer parmi les nombres les labels. Et j'ai mis entre guillemets les vrais labels, parce qu'on va voir un petit peu, il y a des labels à chaque fois qu'on achète quelque chose, il y a toujours des logos, hein, on a plein de logos, on ne sait pas est-ce que c'est vraiment, ce sont des labels avec tout ce qui est par derrière, hein. Est-ce que c'est une certification, tout ce qui est par derrière? Mais est-ce que vraiment, mais on voit bien qu'il y a une guerre du marketing énorme dans ces concepts-là. Voilà, donc là, un rappel, donc, par exemple, un foyer achète à peu près de l'ordre de 1000 kg de produits alimentaires, ce qui est l'équivalent à peu près. Donc, mais tout ce qui. Je pense tous ces diapos-là, vous l'aurez. Donc, tout ce qui est vraiment sur papier, vous l'aurez. Donc, c'est pas la peine de. Donc, c'est pour ça, parfois, je ne vais pas commenter tout ce qui est sur le. Voilà, donc, les définitions maintenant. Voilà, les définitions, qu'est-ce que c'est un norme? Donc un norme par définition, c'est un référentiel. Un référentiel incontestable et commun pour des usages communs, approuvés par un organisme reconnu. Voilà, donc ce référentiel qu'on a dit incontestable et commun doit remplir deux conditions. D'abord, les conditions, ce qu'on appelle qu'il soit reproductible et qu'il a... qu'il reçoit la reconnaissance de tous. Voilà un peu ce qu'on appelle un norme. Donc, les normes, on l'utilise tous les jours. Hein. Donc, là, on distingue quatre types de normes. Par exemple, les normes fondamentales, c'est-à-dire que tout ce qui est grandeur unité, bon, là, tout ce qui est mètre, tout ce qui est kilogramme, tout ce qui est les appellations en chimie, on a des symboles, de tout ça. Donc là, tout le monde, dans tous les pays, on est tous d'accord sur ces genres de ce qu'on appelle les normes fondamentales. Et après, il y avait les normes de spécification. Alors, normes de spécification, c'est-à-dire le mètre, qu'est-ce que représente le mètre? Il y a toute une définition par derrière, qu'est-ce que c'est un kilogramme? Et toutes ces vraiment spécifications, elles sont vraiment normalisées dans tous les pays. Donc on n'a pas à chercher. De la même façon, les normes et les essais, les moyens d'essai, comment analyser. Et le quatrième norme, ce qu'on appelle les normes d'organisation, hein, donc les plus connues, ce qu'on appelle les normes d'organisation, le ISO 9001 et le ISO 14001. Le ISO 9001, c'est pour la qualité. Et le ISO 14001, tout ce qui est management environnemental. Donc le mot ISO, ça vient de grec, hein, ISOS, c'est-à-dire égal. Ce n'est pas une abréviation de l'anglais. Parce qu'en anglais, ça va être ce n'est pas ISO, ça va être IOS, International Organization for Standard. Donc là, ils ont choisi le mot ISO. ISO pour dire que c'est vraiment, ce sont des normes qui seront appliquées quel que soit le pays, quelle que soit l'entreprise, ce petit, grand, quel que soit le secteur d'activité. Voilà, ça vient de là, le mot ISO. Voilà, donc la normalisation, c'est l'activité vraiment pour rédiger ce qu'on appelle la publication des normes. Donc ça, c'est la normalisation. Maintenant, la certification. Donc la certification, c'est une procédure par laquelle un organisme certificateur. Alors on va voir un petit peu ces organismes certificateurs, comment ils sont accrédités en France. Voilà, on prend l'exemple de la France. Donc là, ce sont des organismes certificateurs, donc dans une assurance écrite. C'est-à-dire que pour qu'un système d'organisation, un processus, une personne ou un produit, un service soit conforme à des exigences spécifiées dans une norme ou un référentiel. Voilà un petit peu le mot certification. Donc, certification, c'est garantir la constance de la fabrication par rapport à un référentiel. Un outil d'aide pour différencier des produits certifiés des autres. Et c'est un acte volontaire. C'est-à-dire que moi, je veux certifier mes produits, donc là, parce que je le veux bien, comme on dit. Hein, c'est vraiment parce que c'est vraiment un acte volontaire. Et n'est pas une indication d'origine ou de provenance géographique. Donc ça, on verra après avec tout ce qui est label et réglementation. Bon, le marquage. Alors, le marquage, ce n'est pas la même chose comme ce qu'on appelle la marque. Hein, le marquage, ici, c'est une obligation. Là, un exemple de marquage, c'est le marquage CE. communauté européenne, c'est-à-dire ça, c'est vraiment un marquage. Donc un marquage, ça découle ce qu'on appelle, ça relève d'une directive. Mais on va voir un peu tout à l'heure qu'est-ce que c'est une directive. Donc ça, c'est le marquage, c'est-à-dire ça recoule vraiment d'une réglementation nationale, hein, par exemple, ce qu'on appelle l'obligation CE. Alors, un marquage n'est pas une marque, on va voir tout à l'heure qu'est-ce que c'est une marque. Donc, il est destiné au service de contrôle du marché et non pas au consommateur, ce marquage-là. C'est-à-dire qu'aucune différence importante, c'est-à-dire là, ce qu'on voudra avec le marquage CE, c'est vraiment vérifier si vraiment c'est conforme à des obligations, il n'y a pas de risque grave, c'est-à-dire pour utiliser des produits qui ont avec un marquage CE, par exemple. Par contre, une marque, c'est toute signe servant à distinguer des biens ou des services faisant l'objet d'une propriété commerciale. C'est un peu la différence entre marquage et marque. Le directif, maintenant, directif, bon, là, ça donne tout ce qui est documentation dans l'Union européenne, donc on a toujours un directif. Donc, le directif définition, c'est une obligation faite aux États membres en termes d'objectifs, d'atteindre des moyens d'action à mettre en œuvre. Donc, on distingue dans tout ce qui est documentation européenne, c'est vraiment ce qu'on appelle les livres verts, hein, qui donne plus ou moins les objectifs stratégiques, hein, de l'Union européenne. Et on distingue aussi ce qu'on appelle les livres blancs, c'est-à-dire le moyen d'action. Et après, on a les directives par derrière. Là, c'est vraiment une obligation. Donc, une obligation, la directive, ça se traduit par des règlements, c'est-à-dire des règles à caractère obligatoire. Ces règles à caractère obligatoire, ça se traduit par ce qu'on appelle des étiquetages obligatoires. C'est-à-dire, sous forme de graphique, hein, on va voir ça avec, par exemple, la production du CO2 des voitures et tout. On a maintenant des réglementations sur les appareils électroménagers, on a une réglementation, on a toujours des étiquetages. Ça, c'est vraiment une obligation. Donc, relation entre normes et réglementation. Et règlement ou réglementation, c'est-à-dire les normes peuvent être utilisées pour soutenir et simplifier l'élaboration d'application d'un règlement. Alors, pour comprendre ça, on n'est pas toujours d'accord sur les normes. Hein. Les normes, on les établit en fonction d'une situation particulière. C'est-à-dire que je prends par exemple le cas des voitures avec la consommation de CO2, hein, de production de CO2 par kilomètre. Donc, cette réglementation-là est faite en fonction des normes bien particulières. Certaines associations ne sont pas d'accord sur cette façon-là de faire parce que les normes pour établir cette quantité de CO2 ne reflètent pas la réalité de l'utilisation de la voiture. C'est pour ça, mais c'est comme ça. Donc, c'est vraiment les normes, plus ou moins, elles sont utilisées justement pour... les réglementations utilisées pour simplifier les normes qu'on est d'accord ou pas d'accord, mais pour l'instant, voilà, les labels maintenant. Donc, les labels, c'est une marque collective créée par un secteur professionnel ou une structure associative. Avec des règlements, un cahier des charges bien établi. Voilà. Même le secteur professionnel, c'est plutôt une association de ce secteur professionnel qui propose des labels avec un cahier des charges. Donc c'est s'engager volontairement. Donc délivré par un organisme indépendant de l'entreprise. Donc les producteurs, les consommateurs et les entreprises sont associés un petit peu au cahier des charges, mais c'est un organisme indépendant que délivre ce label-là. En général, c'est une structure associative, on va voir un petit peu quand on va voir un peu le détail. Donc, mis à part des domaines agricoles, donc, les labels ne constituent pas des certifications. C'est un cahier des charges, on vérifie un peu si ce cahier des charges est rempli. Donc, c'est une forme de communication avec le consommateur final. Hein. Donc, ça, c'est le label, le pictogramme. Donc, ce terme général désigne vraiment une information donnée sous forme graphique. Hein. Hein, ça sert généralement à la signalisation. Donc, le pictogramme, on a tout ce qui est vraiment logo, on peut le définir comme au départ comme un pictogramme. Hein. Les logos, donc, le logo, c'est un pictogramme appartenant à une société. Donc, là. Donc, un label peut être représenté par un logo sous forme d'un pictogramme. Voilà. Donc, après, on finit avec un standard. Hein. Donc, on parle d'un standard à partir du moment où on a une diffusion large ou d'une utilisation. Donc, je donne aussi un exemple pour, par exemple, l'informatique, les formats PDF ou les fichiers Microsoft. Ce sont des exemples de standards. Bon, là, j'ai pensé que quand je faisais le cours sur le photovoltaïque, je me suis dit pourquoi c'est toujours les panneaux solaires avec 12 volts. Avec 24 volts, avec 48 volts, c'est aussi un standard. Hein, que ce soit vraiment fait au Japon, ou en Chine, ou en Allemagne, on est toujours avec cette sortie de 12 volts pour 36 cellules, 24 pour 72, etc. Donc ça, c'est le standard. Maintenant, on va voir un peu le cadre institutionnel. Qu'est-ce qui décide que vraiment un organisme peut certifier? Et qu'est-ce qui gère un peu tous ces labels? Voilà. Donc, ici, en France, hein, donc c'est le comité français d'accréditation, c'est ce qu'on appelle le CAFOR. C'est vraiment l'organisation qui, vraiment, accrédite tous les organismes certificateurs de l'évaluation. Donc, c'est une association. Donc, les membres, ça représente un peu les entreprises, le consommateur, les associations dans ce domaine-là, etc. Voilà. Donc, le COFRA, c'est le comité français d'accréditation, chargé de développer la confiance de marché, faire reconnaître le système français d'accréditation et négocier des accords, des coopérations ou de reconnaissance, c'est-à-dire un label ou une certification qui est faite en Allemagne, donc il y a toujours des accords ou pas entre pays. Donc c'est vraiment c'est le comité français d'accréditation qui représente un peu la France dans ce domaine-là et signer des accords multilatéraux. Donc ça, c'est vraiment le rôle de. C'est vraiment l'organisme central pour tout ce qui est accréditation. Voilà, donc là vous avez le site ici. Donc, l'organisme certificateur en France, ces organismes peuvent demander à être agréés par le COFRAC. Voilà. Voilà, je vais juste vous donner ça. C'est-à-dire, un organisme certificateur, il demande au COFRAC de, voilà, je veux être reconnu comme organisme certificateur. Donc, là, il y a des obligations, c'est-à-dire obligation de déclaration d'activité. Alors, les déclarations d'activité. Bon, si c'est vraiment une société privée, donc là, il y a quand même un cahier des charges à remplir. Sinon, il y a des organismes certificateurs qui sont reconnus à cet effet par le pouvoir public, c'est-à-dire les laboratoires nationaux, par exemple. Le CSTB, on va voir, par exemple, le Centre scientifique et technique des bâtiments, c'est reconnu pour cette qualité-là. Donc, il y a un cahier des charges, validation concrète de référentiel et une transparence, c'est-à-dire les caractéristiques essentielles de ces référentiels devraient être publiées dans le journal officiel. Comment obtient-on une certification? Donc la certification est une démarche vraiment volontaire. L'organisme certificateur, une fois qu'ils étaient accrédités par le comité français d'accréditation, donc là, ils peuvent vraiment instaurer les dossiers, hein, bon, que ce soit produit ou service, c'est bon, par des moyens d'essai, d'audit. Et après, bon, ils décident si vraiment donner ou pas une certification pour cet organisme. En général, c'est une durée limitée de 2-3 ans. pendant laquelle une surveillance est exercée par l'organe certificateur. Voilà. Donc, évidemment, la certification a un coût. On verra ça. C'est de l'ordre d'à peu près 6 000 euros. Ça vaut juste une idée pour quelques organismes certificateurs en France. Hein. Donc là, vous avez un petit peu des associations pour tout ce qui est produits, industrie et services. Moi, je connais par exemple le CSTB parce que là, je parle souvent en énergie renouvelable, c'est-à-dire que par exemple, pour avoir des crédits d'impôt, pour avoir de l'aide pour utiliser les panneaux solaires, il faut que vos panneaux solaires ou panneaux photovoltaïques soient certifiés par le CSTP. Sans ça, vous n'avez pas de, comment dirais-je, un crédit d'impôt et vous n'avez pas après un achat privilégié pour votre production photovoltaïque. Donc là, un peu les organismes certificateurs. Donc pour résumer, voilà, donc là, ça c'est le comité français d'accréditation. Vous avez des organismes certificateurs des produits industriels, services ou les deux. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 1500 laboratoires qui sont accrédités, 90 organismes d'inspection, à peu près 70 organismes de certification. Pour résumer, donc réglementer, c'est-à-dire que bon, là pour réglementer, là on se base sur tout ce qui est normes, tout ce qui est certification. Pour tout ce qui est sensibilisation, là on fait un diagnostic, par exemple on fait un diagnostic énergétique pour vraiment sensibiliser plus ou moins les particuliers et inciter, c'est là qu'on a vraiment les labels et les aides financières. Voilà. Donc, quelques repères pour discuter un petit peu des labels, c'est-à-dire qu'on regarde un peu si le label c'était une référence officielle ou pas. C'est-à-dire, si elle dépend d'un pouvoir public, d'une agence de normalisation, d'une commission officielle, etc. Là, on dirait que c'est un référentiel officiel. Si ça ne remplit pas cette cahier des charges, c'est un label, il est privé. Le deuxième, on regarde un petit peu s'il y a une obligation réglementaire ou pas, du logo. On regarde s'il y a un contrôle indépendant ou pas. On regarde si le référentiel est libre d'accès, que j'ai pu me connecter à Internet pour voir un petit peu le référentiel de ce label ou pas. Ben, en général, oui, mais certains certificateurs n'aiment pas tellement exposer leur référentiel et le gardent. On regarde un peu tout ce qui est approche cycle de vie. C'est-à-dire que si vraiment dans le cahier des charges, on prend les impacts environnementaux dans un cycle de vie, c'est-à-dire de tout ce qui est à partir de matières premières, fabrication, distribution, c'est-à-dire emballage, déchets, transport, parce que bon, aussi le transport à prendre en compte. Et après, on regarde un peu s'il y a une évaluation multicritère, c'est-à-dire si dans l'évaluation de ce cahier des charges, si on prend aussi d'autres, entre guillemets, externalités. Voilà. C'est-à-dire comme la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du bruit. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une quinzaine de diapos. Là, je vais vous dire un peu plus comment... Ça, c'est ce que j'ai prévu faire comme formation. Hein. Donc là, pour vous, évidemment, les choses sont différentes. Donc là, au départ, je me suis dit... Je vais commencer par couper des labels. Et on va essayer de les chiffrer ensemble. On va regarder un petit peu ce qu'on y arrive. Ce sont des produits qu'on voit tous les jours. Hein, donc on l'achète, on a l'impression de connaître ou pas. Donc on va voir si. Donc ce que je. Au départ, je pensais à ça. Puis, on s'est progressé un petit peu. J'ai dit, bon, je vais faire ça, mais avec un papier cartonné, dans ce genre-là, bon, voir un petit peu, pour faire vraiment, voir un petit peu si on arrive, si on peut vraiment voir un peu de quoi c'est. C'était ça, c'était moche. C'était vraiment pas très homogène, hein. Vraiment n'importe quoi. Donc, j'étais critiqué pour ça. C'est pas terrible. Après, j'ai dit, je vais améliorer quand même. J'ai dit quand même, je vais faire ça d'une manière homogène. C'est vraiment moche parce que là, les images, je les ai pris sur Internet. Ben, elle m'a dit non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. L'image, il faut prendre des images vectorielles. Donc, après, finalement, on est arrivé à quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, on a atterri comme ça. On a dit peut-être que ça peut être peut-être mieux. Voilà, ces genres de... Ça, on a abouti comme ça. Donc là, j'ai regardé un peu tous les labels que je trouve dans ce vraiment qu'on a besoin de... qu'on rencontre tous les jours. Pour dire, bon, comment on va faire? On va essayer quand même de savoir de quoi il s'agit, etc. Donc là, je vais passer. Donc là, je me suis trouvé avec une situation comme ça. C'est vraiment les labels, tout ce qu'on voit dans le... Je commençais par les produits de cosmétiques de ma femme, honnêtement. Je regardais un petit peu. Donc, c'était ça que je me suis trouvé avec ça. Donc, j'espère que d'ici la fin d'une heure et demie, vous allez arriver au moins à avoir un vrai cahier des charges, tout ça. Ouais, voilà. Donc, le consommateur, moi, je sais que maintenant que les produits que je... qu'on prend à la maison, ce n'est pas vraiment pas des vrais labels. Hein. Ça va. La première question, comment diffuser un peu ces informations-là à nos élèves, à nos enfants, dès le départ, pour savoir comment aussi. Parce que eux, ils influencent aussi les parents, hein, quand ils vont. C'était ça. Donc là, ce que je vais vous demander, de vous regrouper en trois groupes. Donc on va essayer, donc on va pas prendre les centaines de labels qui sont ici, on va prendre une vingtaine. Vous allez réfléchir sur une vingtaine de labels, à peine. On va traiter à peu près 3-4 labels, parce que les labels, les autres labels, tout ce qui est label en matière d'alimentation, en matière de... Ça, on arrive à avoir le cahier des charges facilement. Par contre, là où vraiment, au départ de cette formation-là, le label énergie, il n'y a pas pire. Parce que vraiment, au départ, c'était vraiment tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est énergie, au départ. Et là, j'ai eu du mal, vraiment, et pourtant, je suis énergéticien. Donc là, on va détailler un tout petit peu les labels énergie avec trois diapos. Trois diapos, hein, parce que c'est pas trois diapos pour le label énergie. Pour le reste, on n'a pas besoin. Donc là, pour tout ce qui est, tous les labels qui sont ici, vous allez avoir leur cahier des charges. Donc, monsieur Jean-Marc Lange, il est allé faire le. Ils sont là. Hein. Donc là, on ne va pas faire tout faire. Mais là, vous l'aurez. Mais on fera juste une vingtaine. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien que vous regroupez en trois groupes. Hein, on va travailler pendant un quart d'heure juste pour voir un petit peu si vraiment on arrive à... Donc, le label élargi, ça, ce que j'ai, c'est vos collègues, c'était vraiment ce qu'on appelle la réglementation thermique 2005. Donc, ça concerne tous les projets de construction en France à partir de septembre 2006. Hein, la réglementation thermique, c'était avec vos collègues. Donc là, j'ai fait un rappel sur le règlement thermique, hein, 2005. Donc là, je passe par ce qu'on appelle le surface hors œuvre nette. Donc là, une définition de surface hors œuvre nette. Et là, tout ce qui est vraiment le surface qu'il faut prendre en compte, qui est ici, là, hein, tout ce qui est en rouge. Voilà. C'est la surface à prendre en compte quand on veut parler des réglementations thermiques. Là, on va définir un petit peu l'énergie primaire. Donc là, parce que ce qu'on utilise, nous, on utilise ce qu'on appelle l'énergie finale. Donc là, on définit c'est l'énergie primaire, c'est-à-dire une forme d'énergie disponible dans la nature avant toute transformation. Hein, ça peut être du pétrole et tout. Après, on définit ce qu'on appelle un vecteur énergétique. Et on a la relation qui dit, parce que dans la régulation thermique, on s'occupe de ce qu'on appelle l'énergie primaire. Hein, donc l'énergie primaire, elle est là. Donc l'énergie primaire, c'est-à-dire l'énergie qui est là vraiment que, par exemple, le pétrole, sans compter un peu la partie raffinage, la partie vraiment utilisation. Donc on a dit que c'est l'énergie primaire, c'est l'énergie finale que vous consommez, c'est ce qu'il y a sur votre compteur, plus ce qu'on appelle un vecteur énergétique. Donc ça, le vecteur énergétique, elle est là. Pour la réglementation thermique 2005, le vecteur énergétique, c'est-à-dire pour le fuel et gaz, est égal à 1, pour l'électricité, est égal à 2,58. C'est-à-dire, on connaît bien le rendement des centrales électriques, et il y a des pertes en matière de production sur les lignes. Donc là, on multiplie votre consommation finale par le vecteur énergétique. Voilà, pour la biomasse, c'est 1. Après, tout ce qui est solaire thermique et solaire photovoltaïque, on compte zéro. C'est-à-dire qu'on considère que c'est de l'énergie, entre guillemets, propre. À l'électricité, on dit que pour avoir un kilowattheure chez vous, final, utilisé, il fallait multiplier par... C'est-à-dire comme c'est l'équivalent, comme s'il y avait 2,58 kilowattheure au départ. Voilà, parce que il y a les problèmes des pertes en ligne, il y a les problèmes du... De ce qu'on appelle de rendement pour que nous on a un kilowattheure à la maison, donc il faut dépenser 2,50 kilowattheure d'énergie primaire pour ça. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le lire. C'est pour ça que je vous ai dit ça mérite d'autres trois diapos à expliquer. La rémunération thermique, oui, c'est comme ça. Les rendements des centrales, par exemple nucléaires, ici en France, de l'ordre de 38%. Il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de pertes énergétique. C'est pour ça qu'on distingue l'énergie primaire et ce qu'on appelle l'énergie finale. On multiplie ça par un vecteur énergétique. D'accord ? C'est comme ça. La réglementation thermique, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Après, là, en France, elle est coupée en zones climatiques. Hein, les zones climatiques, elles sont là. Hein, ça va du H1, H2, H3. Donc, pour chaque zone climatique, on va accorder... On va accorder une énergie primaire. Hein, pour chaque zone climatique en France, on va dire pour la zone 1, on accorde pour avoir le label, pour avoir une réglementation thermique, ce n'est pas label, réglementation thermique, il faut que la maison qu'on va construire à partir de septembre 2006, il faut qu'il soit vraiment en phase avec ce cahier des charges. Donc là, on a ça. Je vais vous dire après les réglementations thermiques par zone. Là, ici, voilà. Donc, la réglementation thermique pour les bâtiments, c'est-à-dire ça oscille entre 80 à 250 kWh d'énergie primaire par mètre carré. Oui, ça c'est... Non, c'est pas la même chose, ça. Oui, non. Ça, on pourra en parler. Énergie primaire, c'est ça. Énergie secondaire, quand vous allez transmettre ça sur tout ce qui est, par exemple, si vous prenez l'énergie hydroélectrique, c'est l'énergie primaire. Après, vous allez utiliser les turbines et tout, les transformateurs, ça c'est l'énergie utile. Après, c'est l'énergie secondaire. Après, l'énergie finale, on parle d'énergie finale, mais après on va parler, parce que chez vous, quand vous avez un kilowattheure, vous avez l'énergie utile. Parce que là, vous allez utiliser, je ne sais pas moi, un grille-pain, elle ne va pas vous convertir le 1 kWh qu'elle a enregistré en kWh thermique. Donc là, à la place d'énergie primaire, secondaire, finale, on a aussi une énergie utile. Parce que là, un kWh que j'ai à la maison, je ne le récupère pas en kWh. Hein. Ça dépend de votre appareil. Bon, je reviens à ça. C'est pour vous dire que ici, pour la réglementation thermique, c'est entre 80 et 250 kWh énergie primaire par mètre carré. Et là, les valeurs de ECP, ce qu'on appelle de consommation énergie primaire maximum, elles sont affichées ici. Donc, c'est-à-dire pour la réglementation thermique 2005, en fonction de zone, vous devriez avoir une consommation d'énergie primaire maximum de 130 kWh pour une si vous utilisez des combustibles fossiles ou si vous avez utilisé vraiment tout ce qui est chauffage électrique, là, il ne faut pas que ça dépasse 250 parce qu'il y a le vecteur énergétique qui fait ça. Donc ça, c'est vraiment le cahier des charges. Mais maintenant, si je reviens un petit peu sur les labels. Alors, les labels énergie, ils sont là. Je commence par ce label-là. Ça, vous ne l'avez pas. Ça, vous ne l'avez pas. Mais là, on définit les labels, ce qu'on appelle haute performance énergétique 2005, c'est-à-dire la réglementation de 2005, moins 10%. Après, on définit ce qu'on appelle la très haute performance énergétique, c'est-à-dire la réglementation moins 20%. On définit ce qu'on appelle les bâtiments basse consommation. Bon, il se trouve ici, c'est équivalent à ce label-là, FN Énergie. Ce que vous avez vu. Et là, vous avez un cahier des charges en fonction vraiment de zones climatiques et l'altitude. Et après, vous avez deux labels, ce qu'on appelle utilisant l'énergie renouvelable. C'est-à-dire, si vous avez utilisé l'énergie renouvelable, donc vous avez haute performance énergétique, énergie renouvelable, et très haute performance énergétique qui sont ici. Hein. Mais ça, si je prends en détail ce label effet énergie, voilà. Donc, pour vous dire que chaque label, ils ont leur cahier des charges. Ils ne sont pas vraiment. Il y a encore un peu plus par rapport à l'ART 2005. Là, ici, vous avez le Ménergie, par exemple. Là, c'est un label suisse. Hein, que Ménergie, label suisse. C'est-à-dire que les vecteurs énergétiques, regardez bien. Ici, là, la biomasse, au lieu d'avoir 1, c'est 0,5. L'électricité, au lieu d'avoir 2,58, c'est 2. Mais regardez ici le solaire photovoltaïque. Tout à l'heure, on avait un vecteur énergétique 0. Là, ce label-là, ils ne sont pas du tout d'accord. Là, ils font un vecteur énergétique 2. Et c'est vrai qu'ils ont raison, parce que le photovoltaïque, c'est vraiment un procédé thermique énergivore, incroyable. Donc, il y a beaucoup d'associations qui ne sont pas vraiment pas d'accord. Ça, c'est sur tout ce qui est énergie, mais sur le photovoltaïque, il y a beaucoup de questions qui se posent. Ça, c'est Ménergie. Si je prends un autre, si je prends un Énergie, là, le photovoltaïque, il est 1. C'est-à-dire que par rapport à tout à l'heure, là, vous avez 1. C'est pour vous dire la complication des labels. Mais bon, ça, c'est juste pour vous donner une idée un petit peu. Le reste des labels, je ne vais pas revenir là-dessus. Il est déjà 10h30. Oui, il y a un label géothermie. Moi, je l'ai ici. Hein. Il y a un label géothermie. Il y a, oui, il est là. Il y a un label géothermie. Il y a un label aussi tout ce qui est vraiment PV, hein, photovoltaïque, solaire thermique. Il y a des labels. C'est vraiment des labels officiels. Sans ça, vous ne pouvez pas avoir un crédit d'impôt, ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que la pompe à combustible, ok. Bon, on va arrêter là. Je ne vais pas détailler tous les labels que vous avez ici. Vous aurez le cahier des charges. Hein. D'accord.